I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alternative Football.
Hello messieurs, j'espère que tout va bien. Comme prévu, je vous reviens au sujet de notre épisode sur la performance. Je vous confirme que c'est good, j'ai calé Mathieu Lacombe, le Chief Performance Officer de Parma Calcio. C'est la personne idoine parce que déjà il a un CV bien fourni, hein. Il est passé par le Grand Paris Saint-Germain où il a travaillé dans le staff et où il a après dirigé l'innovation de manière globale. Et aujourd'hui, on lui a donné les rênes du sujet performance à Parme. Donc, il est chargé de faire de ça une fonction club et non pas quelque chose qui va et qui vient au gré des staffs. Donc, il est en charge de tous les sujets, nutrition, psychologie, technologie, tout ce qui touche de près ou loin la performance. Et donc, il aura beaucoup de choses à nous apprendre sur le sujet et comment c'est drivé et construit dans un club avec une approche assez moderne. Donc voilà, Studio Bouquet, il vient spécialement de Parme pour la session. On va passer, je pense, un super moment. D'autant que ce qui n'enlève rien et ce à quoi tu seras sensible, Monsieur Cissé, c'est que c'est un collègue palois. Voilà, hâte d'enregistrer ça. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Ciao les mecs.
Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Alternative Football, toujours en compagnie, en grande compagnie, de mon ami Monsieur Edouard Cissé.
Bah, j'aimerais te retourner le compliment.
Mais c'est très gentil.
Mais je vais pas le faire.
Bah, on le garde pour une prochaine fois.
Bah, bien sûr.
Et figurez-vous que de l'autre côté de la table aujourd'hui, on a par ailleurs un autre ami.
Mais c'est voilà.
Et un palois, donc je suis entouré de palois aujourd'hui, en la personne de Mathieu Lacombe. Qui est Chief Performance Officer à Parme, en Italie.
Merci de m'accueillir.
Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
Donc, Edouard est entouré de deux Mathieu.
Exactement.
Et tu es entouré de deux Palois.
Et de deux Palois. Donc, il y a une forme d'équilibre et de justice dans cette opération.
Mathieu 2T ou Mathieu 1T ?
1T.
Et moi 2.
Voilà.
On va éviter le débat sur lequel est le vrai. Hein. On en parle après en off. Je ne boude pas mon plaisir. On ne boude pas notre plaisir de te recevoir, Mathieu, aujourd'hui. Pour un vaste sujet qui est celui qui se cache ou pas dans ton titre, c'est la performance.
Alternative Football. Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Et d'ailleurs, on va ouvrir de manière traditionnelle, à savoir notre problématique du jour. J'ai l'impression d'être prof d'éco quand j'ouvre les épisodes comme ça. Les joueurs sont-ils les seuls garants de la performance de l'équipe ?
Allez, tu as 4 heures.
J'ai 4 heures, c'est parti.
Elle est bien celle-là, la question.
Celle-ci, elle est assez philosophique.
Elle est philosophique.
Elle est assez philosophique.
Je trouve.
Alors, je ne vais pas me faire que des copains dans ma profession. Hein, parce
c'est
que...
le but, c'est le but.
Alors bien évidemment, je pense que les joueurs sont principalement acteurs de la performance de l'équipe. Et j'aime à dire qu'on est dans un monde assez capitaliste. Hein, donc globalement, c'est pour ça que c'est les joueurs qui sont le plus payés sur le terrain. Parce qu'ils sont les grands acteurs de la performance. Si on regarde aussi des études assez simples, tu vois qu'il y a des corrélations assez significative entre la masse salariale de ton équipe et la performance de tes joueurs ou la valeur marchande, la market value de ton équipe et la performance. Donc, bien évidemment, une grande partie de la performance sur le terrain est faite par les joueurs que tu as. Si tu n'as pas de bons joueurs, compliqué.
Tu n'as pas de bons résultats.
Tu n'as pas de bons résultats. Par contre, si tu n'as pas une bonne méthodologie d'entraînement, si tu n'as pas des bons process, à la fois, tu peux soit tuer une équipe, ou au contraire, en ayant un club qui est bien structuré, avec des bons process, une bonne méthodologie, une bonne stratégie, une bonne vision, bah, tu peux maximiser la performance à long terme de ton équipe. Enfin, j'espère, sinon je peux rentrer à la maison.
Sinon, va falloir se trouver un autre taf à Parme. Alors, on va effectivement beaucoup parler de performance. Est-ce qu'on peut commencer par la définir, cette performance ? Avant de parler vraiment de ton champ d'action en tant que Chief Performance Officer, etc. En gros, la perf, c'est quoi ?
Alors moi, ma définition, elle est assez simple. Hein. La performance, elle se relate dans est-ce que tu gagnes ou pas le week-end ? Voilà. Après, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire pour ton équipe en fonction de l'équipe que tu as. C'est le PSG, ça va être plus ou moins gagné tous les week-ends. Si t'es une équipe mieux de tableau, c'est au moins gagné à moitié de tes matchs.
La performance, pour toi, tu la définis comme ça ?
Ouais.
C'est pas pour un entraîneur, plutôt ? Il faut qu'il gagne ? Toi, t'as un objectif, c'est pas nécessairement que l'équipe gagne, c'est que les joueurs performent. Ils soient bons, ils sautent haut, ils courent longtemps. Ils sont endurants, ils se blessent pas.
Moi, mon objectif, c'est que l'équipe gagne.
C'est vrai ?
Mon objectif, c'est que l'équipe gagne. Et alors, je rentre dans le titre de responsable de la performance. C'est mon titre aujourd'hui et pourtant, je ne l'aime pas particulièrement. Pour moi, le responsable de la performance, c'est le coach. Okay. C'est lui qui est garant de la performance de l'équipe et de faire en sorte que tu as un ensemble de personnes, de joueurs et de staff qui travaillent ensemble pour qu'à la fin, le dimanche ou le samedi, on gagne les matchs et à la fin du championnat, on lève les coupes. Après, le titre de responsable de la performance, il me va pas trop, mais moi, mon rôle, donc bien évidemment, c'est de contribuer à la performance de l'équipe et de faire en sorte qu'elle gagne. Mon rôle au jour le jour, c'est de faire en sorte que les joueurs soient prêts pour répondre au style de jeu de l'équipe, donc d'être prêts physiquement. Ma partie, c'est de gérer en sorte que, sur le plan physique, Edouard, il soit bien, il soit au meilleur de ses capacités pour répondre aux demandes du match.
Que les joueurs soient prêts à jouer le style de jeu du coach, que le coach demande. Parce que sinon, si c'était... Et là, je dis ça, tu l'as appelé comment ? Chief Performance Officer.
Ouais.
Si le CPO avait l'obligation de gagner... sur les 20 joueurs, sur les 20 clubs de football, les 20 CPO, il n'y en aurait qu'un seul qui serait vraiment performant, alors. Parce qu'il n'y a qu'un seul champion.
Je suis d'accord.
Ça fait quoi ce que tu disais avec Franck on avait pris l'exemple de Lorient. L'exemple de Lorient, en fait, le point que donnait Edouard sur le résultat, il dit que le résultat n'est pas la victoire, dans le sens où quand tu es Lorient ou quand tu es Clermont, pour prendre deux exemples complètement arbitraires, on n'attend pas de toi, on ne devrait pas attendre de toi que tu gagnes tous les matchs, mais on devrait attendre de toi que tu performes en fonction
tout
de l'objectif.
C'est une question d'objectif. Quand tu es à Paris, tu peux comprendre que tu es obligé, tout le monde doit gagner, tout le monde doit être. Quand tu es Lorient ou Clermont, objectivement, si tu perds un match, ce n'est pas catastrophique.
Mais ça, je suis entièrement d'accord. Hein, j'en reviens à ma relation entre. La valeur de ton équipe et la performance, tu regardes, tu as des corrélations qui sont très bonnes, tu te dis, la valeur de mon équipe aujourd'hui, elle est de 30 ou 40 millions. Donc, en théorie, fait de façon très statistique, je dois espérer avoir une 12e ou 13e place. Okay. Si je fais bien mon travail, je vais surperformer ce modèle-là et je vais être 10e, 9e, 7e. Et tu peux pas espérer de Lorient demain qu'il soit champion de France. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Mais tu ne peux pas leur fixer comme objectif
d'être. Sinon, il n'y a pas de corrélation entre ton potentiel et l'objectif.
Exactement.
Et donc, cette performance et donc ton travail de CPO, si je décompose un peu le champ d'action, c'est quoi les différents silos, potentiellement les gens qui te reportent, qu'est-ce qui va englober la performance et comment toi, après, tu vas l'organiser pour que ce soit efficace ?
Alors, c'est un métier assez jeune,
on va en parler après, justement.
Et c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est très dépendant de l'équipe et de la façon dont la personne qui a mis ça en place perçoit la performance. Ça peut aller de un champ d'action uniquement sur la performance humaine. Donc tu peux avoir sciences du sport, préparation physique, nutrition, et tu coordonnes les trois. Un champ un peu plus large, on en parlait tout à l'heure avec l'exemple de Laurent qui lui chapeaute en plus le médical. Mm-hmm. Donc, tu as le département médical qui vient s'englober là-dedans. Et c'est un peu le même cas à Monaco. Tu as une grosse structure performance avec le médical, sciences du sport, nutrition et prépa. Moi, c'est un peu différent. On a le médical qui est séparé.
Qui reporte au DS ?
au directeur qui reporte au directeur sportif.
Ouais.
Dans mon équipe, j'ai la nutrition, les sciences du sport, psychologie, préparateur physique, et on rentre la data et l'analyse vidéo.
Ah ouais.
Donc j'englobe.
Qu'est-ce que t'appelles science Tu m'as dit quoi, science du sport. Science du sport, c'est quoi?
Toute la gestion de la charge, d'entraînement des joueurs, gestion des GPS, faire en sorte que tu aies un accompagnement scientifique qui soit correct. Gestion du décalage horaire pour les internationaux, gestion du sommeil, gestion de la récupération, comment on peut intégrer tout ça et l'optimiser.
Et tu es sur le terrain ou tu n'as pas besoin d'être sur le terrain ou tu ne dois pas être sur le terrain?
Ça dépend du modèle, du club encore une fois.
Et toi à Parme?
Moi j'y suis sur les grosses journées. En fait mon rôle il est assez transverse.
Oui,
on a aussi, je chapeaute aussi le centre de formation, donc la performance sur le centre de formation. Et l'année prochaine, on a une équipe de féminine qui va être en Serie A.
C'est très bien.
Ça représente combien de personnes, du coup, un département performance encore une fois, sur ton cas à toi, où il y a beaucoup de métiers différents, il y a un champ d'action qui est assez large. Comment tu le structures, du coup? Je fais simplement une parenthèse, c'est important pour nos auditeurs, c'est que c'était le premier Chief Performance Officer de Parme, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que ce département
était... Ouais, créé.
Et donc, on t'a donné les clés du camion en disant, c'est ça qui est intéressant, c'est comment tu penses qu'on doit l'organiser?
Ouais. Enfin, il y avait déjà une vision. Mm-hmm. Nous, c'est un projet qui vient de... Enfin, il y a eu un rachat du club il y a... le temps passe vite, mais quasiment 2 ans maintenant.
Kyle Crose,
ouais. Groupe américain, président très particulier qui lit Training Ground Guru, The Athletic, donc qui est très au fait de tout ça. Et du coup, qui a dit, OK, moi, ma volonté, c'est de m'appuyer fortement sur les analytics, la data et la performance. Et donc, il m'a recruté pour venir l'aider à structurer tout ça. Donc, je reviens sur ta question de combien de personnes ça représente. Nous, sur l'équipe première, c'est 8 personnes. Okay. Donc, tu as... je dis 8 personnes, mais pareil, je me trompe, donc il faut que je les recalcule avec les doigts. C'est 2 analyses vidéo. On a 2 prépas. On a un nutritionniste. On a un sport scientiste. On a un psychologiste. Et moi.
D'accord.
Ça fait 8.
Ouais.
J'étais à 7, mais je me suis rajouté à la fin.
c'est des vraies belles techniques de management. Il s'inclut dans l'équipe.
Exact. Ouais, et 8, c'est bien, c'est suffisant ou tu ne serais pas contre d'avoir
des
mains, des cerveaux en plus?
Moi, j'aime bien les petits staffs. Mm. J'ai connu des grands staffs, j'ai connu des très petits staffs. J'ai connu des très grands staffs.
T'étais tout seul, tu faisais tout.
J'ai connu des staffs où on était 3 à l'époque où j'étais dans le rugby, où je faisais les sciences du sport, la prépa, le soir j'ai l'analyse vidéo, et le matin quand il fallait bouger les caisses, j'ai le team manager.
C'est formateur.
Non, mais une des meilleures expériences de ma vie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez à l'aise pour travailler avec les analyses vidéo parce que je connais l'outil, travailler les prépas, j'ai été prépa pendant longtemps et ainsi de suite.
Donc 8. Ça passe ou
pour moi,
c'est cohérent?
C'est très cohérent.
Pas que ce soit une armée de Mexicains.
Bah, en fait, moi j'aime bien que les gens soient engagés dans le projet. Plus tu es moins dans ton staff, engagé, ouais. Bah, plus tu dilues ce facteur-là. Donc tu commences à avoir des gens qui ne sentent pas trop leur place. Et donc tu as une part de management qui devient très importante. Et les gens se sentent moins dans le projet. Moins tu es... Plus tu te sens dans le projet, et plus tu t'investis, et finalement tu compenses le nombre de personnes.
Et plus toi aussi, en tant que patron de ce département-là, tu as aussi du temps à donner aux gens. Je pense que c'est un élément essentiel, et on retrouve un peu le phénomène de l'entreprise, c'est-à-dire que si tu multiplies les direct reports, enfin les gens qui te reportent en direct, tu n'as plus le temps pour les gens. Et l'idée, quand tu chapeautes un département, c'est au contraire, bah, t'es là pour ça, t'es là pour leur accueillir du temps, pour coordonner entre eux, etc. Donc, si t'avais 15 personnes, peut-être que ce serait aussi beaucoup moins efficace dans l'application de ce que vous faites.
Entièrement d'accord. Et j'en reviens à ta question de est-ce que moi je suis sur le terrain ou pas. Moi, la partie par exemple, préparation physique où tu dois être sur le terrain, elle est complètement déléguée. J'ai mon responsable de la prépa et mon prépa. Parce qu'à la fois, j'ai pas envie d'être le mec qui, quand c'est sympa et que ça brille un peu, ben, je suis là et je fais l'échauffement qui va bien ou l'exercice qui va bien. Et quand il n'y a plus personne. Donc moi, c'est délégué, on travaille les contenus ensemble. Pareil avec mon sport scientiste, c'est très clair pour tout le monde que c'est lui qui est identifié comme étant sport scientiste. Et si le coach veut aller discuter avec lui, il peut aller discuter avec lui. ça me permet de les avoir vraiment impliqués dans, dans la tâche et tirer le meilleur du même, je pense.
Ouais, et puis tu as aussi pris des mecs pour leur expertise et leur savoir-faire, donc faut leur donner le mandat et leur faire confiance.
T'es un manager, ou t'es un manager de la formation, quoi.
Écoute, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont très bien avec moi, et donc... moi, aujourd'hui, mon travail, il est de faire en sorte que ces gens échangent, communiquent, partagent des données. Bah, c'est un des plus gros problèmes que tu as dans les clubs de foot aussi, c'est d'avoir des silos qui ne partagent pas des données. Et donc, entre un département à l'autre, ça ne partage pas, donc tu n'as pas toutes les informations sur le joueur, et c'est là où il se reblesse ou n'est pas assez performant. Bon, mon rôle est vraiment là, de faire en sorte que tout le monde se parle, que l'analyse vidéo qui, au lieu de passer 8 heures à taguer, qu'il aille parler avec mon data scientist pour automatiser des choses, que mon nutritionniste, qui est un super physiologiste, il aille discuter avec les sport scientists pour optimiser la récupération quand il faut. Voilà. C'est vraiment faire le lien et, entre toutes ces personnes-là, faire en sorte que tout le monde agit dans une vision qui est commune de la performance.
Et Jess, c'est intéressant que tu parles de vision, parce que j'allais te poser la question du layer qui est au-dessus de toi. Tu reportes à qui en tant que CPO à Parme?
Moi, je rapporte au directeur sportif. Nous, ils appellent ça le managing director au sport. Ouais. Donc, on a une structure qui est une structure de plus en plus commune. Hein, c'est président. D'ailleurs, c'est coupé en deux entre
direction générale,
managing director corporate, managing director au sport.
Ouais.
Et moi, je rattache à cette personne-là.
D'accord. Ok. Et la vision par rapport au... On va rentrer un petit peu plus dans le détail après, mais du coup, il n'y a pas de lien avec le coach quand tu arrives. C'est-à-dire que je pense que c'est important pour la pérennité de ce type de projet. C'est, l'idée, c'est de dire c'est une ressource du club. Ce n'est pas une ressource du coach. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que typiquement, avant de rejoindre Parme, ça rentre dans ta réflexion de dire c'est ce type de projet-là qu'il faut favoriser? Parce que je sais qu'un club, il y a des secousses et que potentiellement, le coach qui est là au début de saison, il n'est pas là dans 6 mois.
J'en suis à mon troisième en...
c'est ça. T'en as épuisé des coachs.
J'en ai épuisé.
Le troisième en
11 mois.
11 mois.
Ouais.
Ouais, t'as répondu.
Donc,
que ce soit dépendant de la.
Moi, j'aime bien la notion, ils appellent ça chez nous Share Services. Mm-hmm. Donc, c'est un service qui est partagé et tu viens essayer d'accompagner aussi le coach à réussir son projet sportif. Maintenant, tu mets en place une structure qui veut être pérenne, porter une vision à long terme. Quand tu sais que la durée moyenne d'un coach en Serie A ou même en Ligue 1,
c'est quoi?
Ouais, entre un an et 18 mois, si tu rattaches ça au coach, tu n'auras jamais un projet pérenne, quoi. Et nous, la volonté de l'actionnariat en plus, c'est de développer des méthodes propriétaires au club, propres au club, faire en sorte que quand tu viens de choisir le coach, tu fasses en sorte qu'il puisse s'aligner avec ta philosophie d'entraînement.
Alors, c'est quoi cette philosophie d'entraînement, alors? Pour schématiser, c'est-à-dire que vous êtes plus possession de balle, vous êtes plus à vouloir une grosse intensité. C'est quoi le...
Nous, la philosophie... Déjà...
Je schématise.
Ouais, non, mais c'est
un club qui vient.
C'est intéressant de ramener ça au style de jeu que tu veux mettre en place.
Parce que ça aussi, je coupe, ça facilite aussi le DS à aller chercher l'entraîneur.
Exactement.
Mais c'est
pour gagner du temps, quoi.
Faut que t'aies ta vision club sur OK, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire.
Et ensuite,
on a des vraies discussions là-dessus aussi au niveau du club. Hein. Tout le monde va te dire, moi j'aimerais jouer comme Guardiola, possession de balle, on est dominant, c'est tous les trucs à la mode aujourd'hui. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, nous on est Parme, on n'aura jamais les joueurs
de Barça, de Guardiola.
Ou de City. On a un projet en plus qui veut s'appuyer sur des jeunes. Donc, quand tu regardes un peu tout ça, tu te dis bon, possession de balle, oui, tu peux, mais t'as parlé d'intensité, c'est plutôt ce qu'on essaie de mettre en place parce qu'on va avoir des jeunes joueurs. On va essayer de mettre en place quand même un jeu qui est attrayant parce que t'as quand même un peu de trading, donc tu vas ramener des joueurs qui soient mis plutôt en avant
et pour pouvoir les valoriser.
Exactement. Okay. Donc, pression à la perte de la balle,
classique.
Beaucoup de verticalité. Voilà.
Ouais, donc après, bon, ça facilite aussi le travail du DS. C'est-à-dire qu'il peut aller recruter pas mal d'entraîneurs, du coup, qui peuvent. Qui peut,
exactement.
pouvant servir ce projet.
Ça, je pense que c'est clé, tu vois. Je sais plus avec qui on parlait de ça, mais des fois, parce que t'es dans les cas où tu vois t'as une finale entre deux coachs pour un poste, et c'est deux profils qui sont complètement différents. T'as l'impression qu'il n'y a pas de travail en amont sur, ok, mais la matière, c'est quoi? Les joueurs qu'on a aujourd'hui, c'est ça. L'objectif, c'est celui-là. On va juste parler à ces deux mecs-là parce qu'ils sont disponibles et ils sont dans notre, dans notre ordre de prix. Et donc, c'est en ça qu'être lié directement au DS et avoir le temps de travailler, c'est important. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas innocent aussi de faire travailler sur le centre de formation, parce que l'idée, c'est surtout si tu es basé sur les jeunes, que la stratégie, et ça, c'est les convictions type Wenger, etc., c'est que ce que tu crées en tant que footballeur, ce que tu développes, vienne ensuite se coller au projet.
Mais comme ça, que le jeune joueur, il sache ce qu'on attend de lui et puis qu'il ait un. Mais les armes physiques pour assumer, quoi.
C'est sûr que si tu pars pour développer sur ton centre de formation des joueurs plutôt typés, entre guillemets, Barça, possession de balle, et qu'après tu veux jouer un jeu plutôt demandant plus physiquement, athlétique, ça n'a pas marché, quoi. Donc t'as une vraie mission. On en revient à la notion de... T'as une obligation quand t'as un club d'avoir une stratégie qui est claire, pour pouvoir aligner toutes les parties prenantes de...
Mais ça fait appel au bon sens.
Ouais. Mais,
mais oui. C'est pas partout.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'était ma prochaine question. Alors, mais j'ai la réponse de par les relations qu'on a avec les clubs. Mais aujourd'hui, tu l'évalues à... Je ne vais pas te demander un pourcentage hyper précis, mais le nombre de clubs professionnels qui ont cette vision de dire la performance, c'est une ressource club, ce n'est pas une ressource staff. Tu vois, est-ce qu'on parle de 10% des clubs qui bossent comme ça? Est-ce que c'est 50%? L'ordre de grandeur, c'est quoi?
Franchement, ça se développe de plus en plus en France.
Ok.
L'idée du département performance, ça vient historiquement d'Australie, avec les clubs d'AFL et...
Ouais. C'est important que tu dises ça parce qu'il y a un mythe autour de ça où on pense forcément que toute innovation dans les structures sportives vienne forcément des États-Unis. Mais effectivement, la mouvance du département de performance, c'est l'AFL, c'est le football, football australien. Ouais. Un petit instant, histoire du sport.
Merci.
Mais de rien. Pardon, je t'ai coupé du coup.
Et d'ailleurs, tout le monde te dit que les Américains sont vraiment avant-gardistes là-dessus. Ils sont plutôt en retard sur cette création de département de performance. Ouais. Très bon sur la data, plutôt en retard sur...
Oui, ou justement, je reviens sur ça, où justement cette fonction-là, elle est liée au staff. Elle est liée au coach et pas au GM. Le GM va faire toute la partie recrutement, le staff va faire la partie training, développement et performance. Et donc c'est intégré au mec qui est là avec son staff et c'est pas intégré au mec qui définit la politique sportive à long terme, effectivement. Et donc ça se développe de plus en plus en France.
De plus en plus. Te dire un chiffre aujourd'hui... Je pense que tu as des clubs qu'on me... Alors, pas les citer, hein, mais bien évidemment Paris qui avait commencé à travailler là-dessus. Monaco, Lille, tu as cité tout à l'heure Laurent Bessière, donc Lens.
De plus en plus.
Rennes.
Ils ont compris.
De plus en plus, tu as les clubs qui développent. Lyon, pour pas les citer. Toulouse est en train d'avoir un projet qui est intéressant là-dessus. De plus en plus, les clubs ont compris qu'il fallait investir là-dessus pour pouvoir avoir de la pérennité dans le projet sportif.
Parce qu'à l'époque, il y avait des excès, il y avait des entraîneurs qui arrivaient avec une armada d'adjoints, ils étaient à 10, et puis, comme tu dis, hein, il reste 3 mois, tu vires les 10,
Tu vires les 10,
un chèque, et puis ça fout le bordel dans ton projet.
Puis tu avais aussi un vrai danger au-delà de ça, c'est-à-dire que les mecs arrivaient non seulement avec leur staff, ça c'est ce que je comprends très bien, mais aussi avec leur partenaire. Donc tu vois, ils ont le partenaire d'analyse vidéo qui est telle boîte, le partenaire data qui est potentiellement Opta, et du coup, les mecs signent des contrats pendant X années, et demain ils partent, le coach arrive avec un autre partenaire privilégié, tu dois donc structurellement, même pour un club, rationaliser les dépenses et l'approche. Tu vois, que ce soit une fonction club plutôt qu'une fonction de staff, c'est plutôt...
C'est marrant que tu mentionnes ça, parce que moi, quand je suis arrivé au club, donc il y a eu pas mal de turnover avant moi, exactement ça qui s'était passé avec des staffs qui étaient arrivés en disant « Non, moi j'aime plutôt tel type de GPS, alors, moi je vais travailler plutôt avec machin, et moi je travaille plutôt avec bidule. » Et je me suis retrouvé à regarder tous les contrats, et la plupart des trucs, on avait plein de doublons ou de choses en triple. Et je fouillais, ah oui, c'est vrai, on a les caméras tactiques de machin qui sont dans le placard. Et le contrat, il court. Ah oui, mais c'est tel mec qui les voulait, donc on a payé un contrat de 2 ans. Mais le mec, il restait 2 mois. Et on vient de sortir de la période des budgets, on a recliné tous les budgets, cassé pas mal de contrats. En fait, tu te retrouves avec un budget, on a beaucoup plus de choses. Ils sont contents, hein. Ouais. Beaucoup plus de choses, et on s'est mis vraiment à jour sur la plupart des technos pour un budget qui est quasiment équivalent. Donc t'en reviens encore une fois à la stratégie, hein. C'est pas une question de moyens à mettre en place, c'est une question de te dire, ok, on va avoir un peu de bon sens, On va organiser les choses.
Rationaliser.
Exactement.
Et mais tu vois, enfin, nous, tu peux pas savoir le nombre de contrats en cours qu'on a sur les trucs qui ne sont plus utilisés. Parce que on rentre dans un club, c'est tel coach, on a l'habitude de travailler avec lui, donc il vient, il fait la liste de courses, il prend tout. On signe 3 ans parce que c'est la durée du contrat du coach. Au bout de 6 mois, il est dehors. Le club nous appelle, comment on fait? Bah, les gars, vous avez un contrat de 3 ans. Bon, ouais. Bah, c'est pas grave. Et puis ils ont un autre.
En plus, ils sont très bons parce qu'il
y a un ferme.
On est payé, mais juste les services sont pas utilisés. Et ça, ça arrive.
Et Monsieur Lille Palette est très bon parce que dans les contrats, il y a un renouvellement tacite, ce qui fait que dans la plupart des clubs oublient à serrer le contrat. Où ils s'en rendent compte en juillet, eh, mais il fallait couper le contrat en mars.
Ça, c'est pas de mon fait.
Ça,
c'est dans beaucoup de contrats, c'est pas que les contrats de chez les palettes.
C'est très bon. Plus qu'à dire oui ou non, mais.
Oui, alors, on a des tacites en condition dans certains de nos contrats, notamment dans la partie.
On en reviendra et on pourra en discuter après, mais il y a un vrai rôle qui manque dans les. Clubs.
Le suivi des contrats, tout simplement. Il y a le contrat, il n'y a pas que le Sandra. Il y a pas que le contrat foot, quoi.
Qui gère les process, qui gère les technos, ouais. Qui gère même les gens, et on peut en parler plus tard. Mais t'as un vrai besoin là-dessus.
Ouais, on va effectivement revenir sur les process, parce que je pense, toute une partie de l'organisation qu'on regarde pas suffisamment tôt quand on développe sa stratégie. Mais avant ça, pour rester un petit peu sur les clubs, donc t'en as connu plusieurs, t'as notamment travaillé au Paris Saint-Germain longtemps dans différents rôles. On a compris qu'aujourd'hui, la tendance était vers les départements de performance, qui, selon moi, est plutôt un bon signe sur la rationalisation de l'organisation d'un club de foot. Est-ce qu'il y a un modèle dans le foot? Est-ce qu'il y a ce club-là qui a craqué le code et c'est comme ça, c'est de ces mecs-là qu'on doit s'inspirer. Et donc, pas dans d'autres sports, parce qu'on a parlé du football très bien, mais vraiment dans le foot. Tu vois, tu as des gens... Sur l'utilisation de la data, Liverpool est souvent cité parce qu'effectivement, ils se sont staffés relativement tôt. Ton regard sur ça, c'est quoi?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de one size fits all, le modèle qui va à tout le monde. Oh, et
les
tiens.
Anglicismes, les mecs.
Ah, aujourd'hui, là,
c'est... Alors, je suis désolé, j'ai voulu le tourner en français celui-ci, mais j'ai eu peur de bafouiller.
On travaille dans des organisations américaines, monsieur Cissé.
Oui, mais les poditas ne sont pas tous anglais.
Donc, one size fits all, c'est une taille unique.
Taille unique.
Mais rien.
Donc, pour moi, je pense que ça serait une erreur de dire je suis un club, je veux commencer à me structurer, tiens, qu'est-ce qu'ils font, Liverpool, super, on va faire la même chose. Parce que déjà, ils ont moyens différents, culture différente, niveau de maturité différent. Donc, je pense qu'il y a des...
Et objectifs.
Et objectifs totalement différents. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion. On en revient encore une fois sur la stratégie, c'est que, ok, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui est important pour mon club? Est-ce que c'est la performance de l'équipe première, là, demain? Est-ce que c'est le développement d'un modèle sur les jeunes? Est-ce que c'est le développement d'un modèle avancé de scouting et de trading des joueurs? Est-ce que c'est un peu tout ça? Peu importe. Développer le modèle de ton modèle de club. Si, quelle est ta culture, hein? C'est entre le modèle anglo-saxon et moi, ce que je vois aujourd'hui en Italie, tu as des cultures qui sont différentes et qu'il faut accepter. Et donc, tu vas mettre en place les choses de façon...
C'est quoi la différence que tu peux nous dire entre l'Italie et l'Angleterre ou la France? La façon de jouer. Donc, du coup, tu prépares les joueurs différemment ou...
Alors, non, la façon de jouer, les championnats sont différents, mais même dans l'approche des métiers, notamment l'approche de la data, les anglo-saxons, ça fait plus longtemps qu'ils sont dedans, puis ils ont la culture anglo-saxonne qui fait qu'elle est quand même... nous, on est des latins, hein, tu vois, donc on a une culture un peu plus agile, un peu plus des fois aussi dans l'humain, un peu moins dans les process. Donc
les plus ressenti, quoi, c'est
ça. Le ressenti, donc ça, faut le prendre en compte dans la façon de mettre en place les choses. Et après, tu as des niveaux de maturité. Donc, moi, un modèle que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est le... sur la performance, c'est le modèle de Chelsea. Ok, ça fait 15 ans qu'ils font les choses, tu vois. Donc quand tu discutes avec eux et qu'ils disent « Oui, nous, aujourd'hui, on a un modèle qui est complètement décentralisé, la vision, elle est partagée par tout le monde, donc les gens, ils peuvent repartir dans tous les staffs, complètement décentralisés, et vont appliquer la vision globale de la performance qu'on a. » Oui, ok. Ça fait 15 ans qu'ils travaillent, ils ont réaligné tout le monde.
C'est pas arrivé...
c'est pas arrivé comme ça, tu vois. Ouais. Et ils sont passés par d'abord, on va recentraliser pour créer un noyau commun, une vision commune, pour après redécentraliser dans le centre de formation.
Tu peux expliquer comment ils travaillent concrètement? Parce que je sais, j'avais jamais entendu parler.
Chelsea, c'est le modèle assez classique, hein, ouais. Mais donc les pros, t'as la structure comme j'ai expliqué, sur le centre de formation, t'as une structure aussi, ce qu'ils appellent, t'as les équipes, t'as les fonctions,
ouais.
Donc t'as responsable de l'analyse vidéo, responsable de la préparation physique, globalement responsable de la perf qui coordonne tout ça.
Un par équipe donc.
Enfin, un par équipe.
Ouais.
Et donc là, nous, où aujourd'hui, on dit, on met du poids sur la fonction. Donc j'ai le responsable de l'analyse vidéo qui va communiquer sur les process fortement avec les équipes et on va essayer de vraiment pousser des process communs avec tout le monde.
Okay.
Eux, aujourd'hui, sont passés à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les process qui sont communs, mais chaque équipe va redévelopper son petit modèle de performance.
Ah oui, au sein du process.
Au sein du process.
Ok.
D'accord.
Ah oui.
Donc en gros, ouais.
C'est le next step.
Ils avancent, ouais.
Good.
En fait, il y a un squelette. La première étape, c'est de mettre en place le squelette, ensuite de créer quelques muscles, ensuite c'est d'apprendre aux muscles de fonctionner. Et en fait, toi, tu es à l'étape où tu fais le squelette et les muscles, et Chelsea, ils sont déjà dans le cadre de cette équipe-là, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Là,
comment spécifique. On peut individualiser le modèle. D'accord. Au sein de cette équipe spécifiquement. Ouais. Alors que nous, aujourd'hui, on est en train de se dire, OK, tout le monde fait un peu ce qu'il veut dans son camp. Notre objectif, c'est de réaligner tout le monde.
Et une fois que t'as...
Mêmes outils, même process, même langage. Mm-hmm. Que tout le monde se comprenne et que tout le monde soit aligné vers une vision commune de la performance, de l'analyse.
Et une fois que tu as fait ça, et nous, du coup, tu en as connu trois, donc tu vas pouvoir nous parler de tes expériences à Parme. Comment tu bosses avec celui que tu as appelé le directeur de la performance, le coach, qui t'a pas choisi? Parce qu'il arrive et donc il est à cette fonction club qui est existante. Comment tu fais? C'est-à-dire que en général, et puis c'est surtout en théorie celui qui a les mains sur le sportif.
Oui.
Comment ça se passe? Comment tu te fais accepter? Quel est le type de dialogue que tu peux avoir avec ces mecs-là?
Alors, déjà, je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup d'humilité.
Mm-hmm.
Donc ça, quand t'as le changement de coach et que tu penses que tu vas lui expliquer la vie et lui imposer ta méthodologie de travail, je pense que
tu rêves.
Nous, il y a des choses sur lesquelles on tient fortement. On a des process de suivi des joueurs qu'on veut garder dans la continuité. On a des outils qu'on va absolument éviter de changer parce qu'on veut avoir l'intériorité sur les outils et on veut que nos analystes développent une compétence forte là-dessus. Et après, il y a des choses auxquelles on croit sur l'art et athlée, sur la prévention des blessures. Là, on est fort là-dessus. Après, pour le reste, ce que je dis au coach, hein, moi, je suis une sorte de boîte de conseil en interne dans le staff. Je suis au service, et on appelle ça « share services hein. ».
Mm-hmm.
Je suis un service.
Service partagé, parce que sinon, je vais me faire gronder par Edouard Cissé. En fait,
service partagé. Donc, mon objectif, c'est de développer le niveau de mes fonctions pour qu'elles soient le plus fortes possible et qu'elles puissent répondre aux exigences du coach. Donc, je vais avoir les meilleurs sports scientistes. OK. Comme ça, quand tu vas poser des questions et tu vas voir mettre des choses en place, on peut y répondre, on est fort là-dedans.
Tes trois entraîneurs, ils avaient trois façons différentes de jouer ou pas du tout?
On a eu une saison un peu particulière et donc on a eu des...
Vous avez pris ce que vous pouvez?
Pas pris ce qu'on pouvait, mais à un moment donné, on a été un peu off stratégie, en dehors de la stratégie. Pour aller prendre un entraîneur qu'on pensait capable de gagner là, de suite. Et donc avec un modèle de jeu qui n'était pas trop le modèle de jeu de l'équipe.
T'as-tu adapté?
Bah, tout le monde s'est adapté, ouais.
Du coup, est-ce que quand il y a un changement d'adaptation comme ça, est-ce que les joueurs, il faut les préparer différemment? Est-ce qu'il y a... Tu augmentes le risque de blessure, ouais, ou pas?
Bah, nous, on a eu des... Enfin, y a eu des on est passé en plus de modèles d'entraînement qui étaient vraiment différents, ou... ça ne va pas rentrer à la technique, hein, mais... Un modèle de jeu qui était plutôt basé sur beaucoup de jeux réduits, peu de vitesse, et où on essayait de travailler avec le staff pour leur faire comprendre qu'il fallait quand même adapter ça à quelque chose qui était aux antipodes, qui était quasiment plus de jeux réduits, que du grand terrain, où là, par contre, il y avait énormément de haute intensité, et où là, on essayait de les faire travailler pour dire... Faut peut-être un peu travailler sur la régulation de la charge.
Ouais, c'est pas évident, parce que le recrutement aussi qui a été fait en amont, qui n'est pas adapté à la façon de jouer.
Et c'est, de toute façon, c'est le... Quand tu commences à faire des choix qui sont en dehors de ta stratégie, parce que tu fais des choix à un moment donné où tu es sous pression, parce que tu ne gagnes pas, c'est souvent là où tu... Et tu les fais en 48 heures. Hein. On a perdu, on vire le coach, le lendemain on en a un nouveau. c'est là où tu as le plus de chances, si tu n'as pas une bonne stratégie et si tu n'es pas clair dans ta tête, de faire des erreurs. Ouais. Et nous, on s'en est un peu rendu compte cette année et on a réaligné tout le monde sur okay, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont nos grands principes. Et donc, quand on fait des choix, même sous pression, quelles sont les choses auxquelles on tient, quoi.
Et toi, après, t'es passé par Paris. Après Paris, t'avais la possibilité d'aller dans un club en France ? Ou pourquoi être parti en Italie, où ce qu'on le fait, effectivement, c'était un propriétaire américain et que t'as vu qu'il y a la possibilité de développer des choses là-bas ?
Bah, il y a eu déjà... Enfin, moi, le projet m'a plu avec... C'est toujours important pour tu vois, département performance ou data d'avoir un bon sponsor dans le club, sinon c'est assez compliqué pour le développer. Et là, le sponsor, il vient du président qui met l'argent. Donc, c'est quand même plus facile pour développer. Et avec des gens au niveau, enfin des postes clés, hein, on a parlé de directeur sportif, directeur des scouts, qui étaient très ouverts aussi à travailler sur d'autres méthodologies de travail. Donc, moi, ça m'a plu. Et après, moi, très personnellement, c'est que j'aime bien construire des projets. Donc, j'ai commencé à la fédé de rugby où il y a tout un projet de développement de département commun scientifique à créer. J'ai adoré. Je suis arrivé au Paris Saint-Germain un an après Martin Buchette. Donc, là où il fallait recréer le département, donc travailler avec Martin pour créer tout ça, j'ai adoré. On est arrivé à un moment donné où on n'avait pas fait le tour de la question parce que tu n'as jamais fait le tour de la question, mais. Il y avait moins de choses à construire. Et donc là, reconstruire un peu tout ça. Ouais,
c'est le côté avoir les mains libres, être dans le...
J'allais et la construction.
J'ai encore fait un anglicisme, ouais. Dans le driver seat, mais dans le siège du conducteur. Mmh. C'est un moins de flow quand même, en français.
Siège du conducteur. dans le siège. Bah, tu vois moins le pilote de F1, tu vois plutôt le pilote du bus, quoi.
Voilà.
Ouais. Alternative football.
Et alors je te posais la question des joueurs et de l'éducation au-delà de ça, ou de l'entraîneur avant, pour avoir une réflexion sur ton plus grand défi. C'est quoi le challenge en fait ? C'est l'acceptation de quelque chose qui est relativement nouveau ? C'est ta relation avec les autres ? Est-ce que c'est le rythme délivrable aussi ? Parce que y a quand même un volume de boulot énorme et tu dois avoir des mecs qui sont prêts tous les trois jours. Aujourd'hui, ton regard sur le truc le plus dur, c'est quoi ?
T'as noté trois choses intéressantes. Bon, volume délivrable. Alors, on produit notamment avec les données, il y a énormément de choses. Aujourd'hui, t'as quand même la possibilité d'automatiser de plus en plus, quand t'es bien structuré, d'automatiser de plus en plus de choses.
Ouais.
Donc finalement, nous, j'ai la chance d'avoir un très bon data architect au club, qui structure bien nos bases de données, on travaille nos rapports et on est capable d'automatiser. Donc finalement, le volume délivrable, oui, on produit beaucoup.
Mais si tu t'organises, ça peut aller vite.
Mais ça peut aller vite. Tu as parlé de l'acceptation, et on a parlé de nouveaux coachs qui arrivent. Tu as un vrai besoin, alors à la fois de notre côté d'empathie, hein, on en a parlé tout à l'heure, te dire, OK, bon, qu'est-ce que ce coach a vécu ? Il a gagné, peu importe, trois Ligues des Champions. OK, c'est pas moi qui vais lui faire changer tous ses process d'entraînement. Donc, mais je pense qu'il y a des choses à améliorer et à optimiser. Donc, comment moi, je peux arriver à faire comprendre à cette personne-là qu'on peut encore travailler sur des points d'optimisation de sa méthode de travail. Management du changement aussi. Hein, ça revient à la même chose. Hein, c'est ça. Il y a des choses qui sont en place et on veut essayer d'arriver à les changer tu l'as dit, hein, t'as des staffs qui doivent gagner toutes les semaines, qui ont des fois 15 ou 20 ans d'expérience. Tu veux pas leur dire non, mais attends, viens, regarde. On va essayer comme ça pendant 3 mois et tu vas voir si ça marche. Ça sera cool, tu me remercieras. Bah non, parce que si ça marche pas, lui il part et toi tu restes. Donc,
heureusement, c'est de l'autre côté de la fonction de club où le coach peut te dire toi t'es protégé.
Exactement. Donc il faut arriver à la fois à avoir de l'empathie. Et de pousser sur les bonnes batailles pour arriver à faire changer progressivement les choses et créer la confiance.
Puis les entraîneurs, ils sont dogmatiques aussi. Ils ont une méthode, parfois, ils veulent la garder. Ah ouais. C'est pas évident, quoi. Est-ce que tu as un entraîneur avec lequel tu aimerais travailler ? Sans le connaître nécessairement, mais tu dis, purée, par rapport à sa personnalité, sa façon de jouer, franchement, j'aimerais que Parme lâche des millions et des millions pour le recruter. Ou alors
J'ai manqué Ancelotti de peu.
Ouais. Carlo, ouais. Ouais.
J'aurais vraiment aimé travailler avec Ancelotti. Pour la personne.
Ouais. Parce que pour resituer, tu es arrivé au PSG sous Emery.
Exactement. Ça, ouais. Donc, et nous, à Parme, justement, dans notre staff, on a l'ancien troisième prépa d'Ancelotti qui en parle.
Humainement parlant.
Humainement parlant.
Ouais.
Grand monsieur.
Il laisse la.
Grand monsieur.
Il c'est un vrai manager. Ouais. Il laisse la place à ses, à ses collaborateurs et puis on y va tous ensemble, je te fais confiance.
Exactement.
Si tu déchires, on est dans la merde, tous ensemble.
Et après, tu as toute une génération. On parlait de Ten Hag, on parlait des Guardiola. Pour leur sens du détail et la façon avec laquelle ils poussent tu vois, les exigences à un niveau très élevé, ça m'intéresserait de travailler avec eux.
Ok. Tourelle, il n'était pas comme ça ?
Si.
Il était comme ça.
Si, si,
donc, c'est toute la nouvelle, les nouveaux coachs qui ont compris qu'à un moment donné, la performance, c'est des détails et il faut qu'ils se remettent constamment en question. Donc, il faut un entraîneur qui accepte de se remettre constamment en question.
Exactement.
D'accord.
Il y a un mot qui revient beaucoup depuis le début de notre entretien, c'est le mot process. Processus en français.
Processus. Ah, oui,
processus en français. On est très vigilant aujourd'hui sur les anglicismes. Alors. Je vais pas te demander de définir le processus, mais pourquoi du latin processus, j'imagine. Pourquoi donc les process qui sont la mise en place d'habitude pour s'organiser, en gros, si je le schématise. Pourquoi c'est aussi important, c'est aussi présent dans ton métier, et surtout comment ça se crée des process et comment tu fais pour qu'ils soient acceptés. Est-ce que tu vas regarder aussi le monde de l'entreprise, est-ce que tu vas t'inspirer du monde de l'entreprise pour dire ça fonctionne dans cette organisation, je peux l'amener, ou est-ce que tu t'adaptes plus au monde du foot. Dis-nous.
Alors, à la fois, on a un monde qui est très atypique, le monde du foot. Donc, il faut toujours faire attention quand tu veux. C'est souvent le fond américain qui dit on va copier-coller notre modèle d'entreprise américaine.
Il t'envoie le deck de Netflix, le vision deck de Netflix
voilà,
qui a été
avec,
en 96 et que tout le monde a lu.
Avec ton club où tu es 50 en Italie. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Après, à la fois, nous, moi, dans l'équipe, notamment sur le management et la façon dont on gère les projets, on utilise pas mal de choses du milieu de la tech. On a des fonctionnements qu'on a en sprint. Donc, tous les mois, on a une définition des objectifs qu'on veut mettre en place, des choses qu'on veut faire. Et ça, on a. Je cherche le mot en français maintenant.
Dis-le en anglais, on traduit.
On s'engage.
On s'engage. On a un engagement en fait en début de mois au niveau du directeur sportif et on fait remonter ça, nous, parce qu'il suit de près à notre président en disant voilà. Ce mois-ci, voici les projets qu'on va engager, voici ce qu'on va faire. Et à la fin du mois, on dit ouais, voici ce qu'on a fait. Et ça marche bien. Parce qu'une fois que tu t'es engagé.
Il faut délivrer.
Ouais, il faut délivrer. Ouais. Et c'est ce qui arrive souvent parce que t'es pris au jour le jour, tu joues tous les trois jours, tu fais tes rapports. Et en fait, tu gères zéro grand projet. Et à la fin de la saison, tu dis putain, 11 mois. On a rien fait de nouveau. Bon, par contre, là, c'est notre seul mois de juin, donc on va rentrer, on va aller en vacances, on rattaque une saison, et t'as passé 5 ans, tu fais du copier-coller.
Mais ça c'est effectivement, c'est très lié aussi à l'entreprise, parce que moi, je vois quand les Américains nous ont racheté il y a quelques années, ils ont mis effectivement un truc comme ça, c'est-à-dire qu'on avait des objectifs annuels, ils ont mis des objectifs trimestriels, commerciaux, j'entends, et chaque trimestre avait des sous-objectifs mensuel que tu fais remplir avec un truc qui est très chiffré, et c'est ce que tu dis, le sprint, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai mis en place sur cette petite période de temps pour que quand j'agrège toutes ces petites périodes de temps, mon objectif global et plus long terme soit rempli.
Alternative football.
Tu nous as parlé de rugby tout à l'heure. Tu as commencé dans le rugby, ce qui n'a rien à voir avec le fait que tu sois palois, parce que tu as commencé en sport par le foot, tu as joué au Pau FC. Du coup, est-ce que être passé par le rugby d'abord, ça t'a aidé et ça t'aide dans l'approche de la performance ? Et si oui, comment ?
Ce qui est intéressant dans le rugby, c'est que c'est déjà c'est un sport anglo-saxon avec une grosse domination des nations du Sud, qui était très avancée à l'époque sur pas mal de choses.
On revient à l'Australie notamment.
Exactement.
Ouais.
Et en plus, avec une importance du développement des qualités physiques et de toute la gestion qui va autour de ça, qui est hyper importante. Et du coup, sur l'analyse vidéo, ils font énormément de choses. Et c'est un sport qui est très développé là-dessus. Sur le développement des qualités physiques, Tu passes, moi, quand j'étais en rugby, 50% du temps, les athlètes, ils étaient avec moi et 50%, ils étaient avec le coach.
Et du coup... À ce point-là?
Bah, à ce point-là. Alors, surtout, moi, j'étais sur des moins de 19 ans, moins de 20 ans à l'époque.
Les Réchelles?
Sur les équipes de France jeunes, ouais.
Les quoi, t'as dit?
Les Réchelles. Les Réchelles.
Ah, il y a une private joke
logique. Bon, non, c'est les catégories...
ah, d'accord.
Le rugby.
D'accord. Ouais, non,
Donc, ouais, moi, je me suis nourri de ça, c'est sûr. Je me suis nourri de ça.
L'axe de progression sur la performance, que ce soit à Parme pour toi aujourd'hui ou de manière générale dans le monde du foot, où est-ce qu'il y a le plus de travail à faire sur les années qui viennent?
Je pense que tu as un gros travail de... Putain, j'en reviens toujours à mes process.
Mais... Non, mais c'est facile.
Tu as un énorme travail de communication.
D'accord.
Tu as encore beaucoup de départements performance qui travaillent encore un peu en silo. Et le coach, il est un peu de son côté. Donc, partenaire performance qui fait des super rapports GPS, qui fait des super trucs. Mais après, concrètement, ce qui se transfère au niveau du... en tout cas, des décisions sur le terrain, tu n'as pas grand-chose.
Ouais.
Donc, tu as un vrai travail maintenant de décision et te dire, j'ai mon rapport des GPS ou peu importe, mais les trucs qui, moi, me permettent de me faire un avis sur ce qui se passe et de mettre en place des décisions. Et après, moi, je vais travailler avec le coach et je vais communiquer. Et je n'ai pas forcément besoin qu'il voit mon rapport...
Ouais,
Vous parlez de process et de processus. Je pense pas que ce soit ça. Je pense tout simplement c'est il faut gagner la confiance du coach. Il faut que voilà l'un dans l'autre que le coach comprenne que vous êtes pas seulement là, je sais pas des rats de laboratoire de données, de data, genre vous connaissez rien au foot, mais que vous êtes vraiment une entité qui peut vraiment l'aider et apporter un plus quoi. Donc c'est gagner la confiance tout simplement et que vous êtes pas là pour lui shipper la vedette ou sa place quoi. Ouais.
En fait, ce qui a été difficile aussi sur les dernières années, c'est que généralement, tu mettais qui pour gérer les GPS? Tu mettais le troisième prépa ou le quatrième prépa qui avait pas les compétences. Tu allais faire les GPS. Nutrition, bah, attends, on va trouver la nutritionniste en stage qui coûte 0€. Et tu avais ces gens-là qui étaient tout jeunes et tu leur demandais de produire des choses et puis qui délivraient ça comme ça sur la table au coach. Alors, de plus en plus, tu as quand même une montée en seniorité un peu de tes staffs, donc qui ont eu du vécu, qui ne sont pas capables de discuter avec l'entraîneur. Et je peux dire d'égal à égal, parce qu'on ne sera jamais d'égal à égal, mais dire, okay, moi aussi j'ai mon vécu, moi aussi j'ai vu des choses, et je pas de certitude, mais il y a des choses, je sais qu'elles fonctionnent.
Mais ça va évoluer aussi. Dans le bon sens, pourquoi? Parce que les entraîneurs de l'époque, ils n'ont pas connu ça. Ils n'avaient pas ça à disposition. De plus en plus, les entraîneurs sont amenés à travailler avec la performance, des mecs de la performance, et donc du coup, ça va aller. Donc les entraîneurs qui vont arriver, ils ont compris. Ils vont comprendre que, putain, mais ils ont besoin de ça. Tout comme le préparateur athlétique, il y a 30 ans, le préparateur physique, l'entraîneur, j'en ai pas besoin. C'était l'entraîneur qui faisait la prépa physique. Et progressivement, il a compris, l'entraîneur, qu'il avait plutôt intérêt à matcher, à collaborer avec ce mec-là. Et donc, les entraîneurs qui vont arriver, ils vont comprendre qu'ils ont besoin de bosser avec vous. Et ça va être beaucoup plus facile pour vous de communiquer et d'échanger et de travailler avec l'entraîneur.
Et je rebondis là-dessus parce que c'est... j'avais une discussion avec mon président qui mettait la pression sur notre directeur sportif. Il disait, non, mais il faut qu'il utilise plus tes données, il faut qu'il utilise plus tes rapports. Et j'ai dit, mais président, si je lui délivre de la valeur, il va les utiliser parce qu'il fera mieux son travail. Donc, j'ai dit, je viens d'arriver depuis 15 jours, aujourd'hui, je lui délivre zéro valeur. Vous ne pouvez pas lui demander à lui d'utiliser ce que je fais parce que je ne lui délivre pas de la valeur. Et vous allez voir que plus je vais lui délivrer de la valeur, plus il va se servir de moi. Et... on a créé la confiance, délivré de la valeur et
il s'est fait virer deux semaines après. C'est ça la problématique. Tu vas mettre énormément de temps à tisser du lien avec l'entraîneur et pour diverses raisons, mauvais résultat, bim, il part. Putain, il va falloir faire le même process avec procédé avec un autre entraîneur. Ouais. Mais je pense que je crois que sincèrement, ça doit venir de la part des entraîneurs, de comprendre avec leur staff que ils vont dans un club, il y a une cellule performance. Ils ont une façon de fonctionner, collaborer avec la cellule performance. Moi, je fonctionne comme ça. Comment tu fonctionnes? Comment on peut faire 1 plus 1 égale 3. Trouver une méthode, voilà, pendant l'effet de synergie. Alors, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, putain, ouais. Et je suis pas loin, n'oublie pas, je suis allé à Bartou.
Pas sûr de le recruter comme data scientist, par contre.
Je suis allé à Bartou, tu vois. Mais tu vois, c'est important.
Ouais, je suis d'accord.
C'est le changement.
Mais ouais, justement, tu évoques quelque chose de fondamental et qui nous m'amène à notre fameuse remédiation et ce qu'on a proposé aujourd'hui dans cet épisode, c'est que La perf, en gros, c'est essayer de créer des ressources d'optimisation qui sont pérennes dans une industrie qui se construit par des cycles courts, des cycles d'entraîneurs courts, des cycles de direction et d'objectifs courts. Comment on fait ça ? Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est créer des processus qui soient clairs et identifiés, bien s'organiser avec le département performance en fonction de ce que tu veux y mettre, mais prendre des gens qui sont compétents dans leur zone d'expertise, mais aussi dans les soft skills, créer de l'éducation et de la compréhension avec les décideurs, le coach, le DS.
T'es le mec, il a résumé ça d'une manière
ça
de maître.
C'est bon, c'est fait.
Et je rajouterai plus, c'est que pour moi, la performance, c'est tout simplement faire ton max, tout ton possible, mettre en œuvre tous les moyens pour que tu sois le plus à même d'atteindre ton objectif. Pour moi, la performance, ça ne doit pas être le résultat. C'est mettre en place tous les moyens qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Et si tu ne l'as pas atteint, cet objectif, ce n'est pas grave. Il faut juste regarder ce qui t'a manqué pour que l'année d'après, tu puisses retravailler ton process ou t'appuyer sur ce process et en améliorer.
Alors, je rebondis là-dessus et j'espère que je ne vais pas nous relancer pour une demi-heure de discussion.
Vas-y, c'est pas grave.
Mais tu as très peu d'organisations qui sont des organisations apprenantes dans le football.
Ouais, c'est ce que je veux dire.
Tu vois, et parce que pour moi, il y a certains rôles clés qui manquent pour pouvoir permettre de faire ça. Mais tu as ce cycle qui est une machine à laver. Hein, tu joues tous les 3 jours, 11 mois, on part, on oublie tout parce qu'on n'en peut plus et on repart sur 11 mois. Et tu manques de personne dont ça serait le rôle clé de pouvoir définir le plan de développement des gens dans le club.
Ça, c'est...
Le suivi des projets, le suivi des process et faire en sorte que tout ça, c'est aligné avec la stratégie. Donc, tu as un vrai rôle de... Tu sais, aujourd'hui, dans la plupart des... On parlait du lien entreprise. Tu as directeur général et tu as chief strategy officer ou chief of staff ou chief operation officer. Et nous, côté sportif, on a un directeur sportif et après les autres personnes. Et en vrai, aujourd'hui, donc, tu demandes à ton directeur sportif... gérer.
Il doit tout faire. Le recrutement.
Le recrutement, la gestion avec les agents, les politiques. Non. Pour moi, le managing director au sport, il va, bien sûr, gérer l'équipe première, être proche des joueurs, être proche du coach. Il faut qu'il gère les agents, qu'il fasse ensemble que la structure, elle soit alignée sur la vision. Il faut que tu y adosses une personne à côté qui va travailler sur les process, travailler sur les technos, travailler sur les gens pour faire en sorte de lui simplifier un peu le travail là-dessus.
Et ce sera le mot de la fin, si vous le voulez bien. C'est que ça se passe bien ou que ça se passe mal, le côté héritage, il est hyper important dans la construction du succès futur. Et le problème, c'est que tu as cette culture du foot de dire « Bon, bah, ça n'a pas marché. On jette le bébé avec l'eau du bain et on repart sur une feuille blanche. Ouais. » D'ailleurs, un certain club cher à mon cœur a choisi cette stratégie depuis quelques années maintenant, qui, dans la recherche de leur objectif avéré et avoué, pour l'instant n'a pas fonctionné. Tout ça pour dire que cette cohérence à long terme qui manque au club de foot, elle doit en partie être apportée par des fonctions club et pas des fonctions de staff, je reprends un petit peu les mots de langage, parce que bah, ça reste là par définition, ça reporte au président, ça reporte au DS, ça reporte des gens qui portent une vision qui est plus long terme que le résultat de la saison ou de la mi-saison.
Magnifique, Mathieu Deté.
Mais merci, monsieur.
Il va être très fort en résumé littéraire.
Mais c'est celui qui fait toujours les résumés. Hein,
thèse, thèse, antithèse, synthèse, j'étais pas mal. Très fort.
Il
ne fallait pas me demander de faire des additions, mais, mais sur la rédaction, ça allait. Messieurs, merci beaucoup. Vive Pau, qui nous a
un vrai plaisir.
J'ai pas chopé l'accent, donc ça va. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures Alternative Football. N'oubliez pas, message de service habituel, d'aller noter le podcast sur les plateformes, de nous suggérer pourquoi pas des invités ou des thèmes.
Surtout des thèmes.
Merci encore, Mathieu.
Bah de rien, j'irai mettre 5 étoiles.
Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Small details are big surfaces.
tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.